France Musique. Musicopolis. Ou 26 décembre 1781, Vienne. Imaginons que nous sommes à Vienne à l'époque de Noël 1781, le 25 ou le 26 décembre. Dans les appartements de la grande duchesse Marie-Louise a lieu un grand concert. Les appartements, c'est-à-dire sans nul doute de grandes pièces avec des portes à double battant parsemées de fauteuils, de petits canapés, de petites tables et de guéridons. Quelques serviteurs zélés passant avec des rafraîchissements et discourant à voix légèrement feutrée, une assemblée d'aristocrates très bien mis, quelques personnes parmi les intellectuels distingués de la ville et bien sûr des musiciens. Nous possédons une relation du concert de fin décembre 1781, paru quelques jours plus tard dans le Pressburger Zeitung. Un grand concert dont il faut dire qu'il avait comme auteur le maître de chapelle princier des Esterházy, le célèbre monsieur Haydn. Le quatuor qu'on y a entendu avait comme interprète messieurs Luigi Tomasini, Apfelmeier, Weigel et Huber. La distinguée compagnie lui a prodigué ses gracieux applaudissements et daigné présenter à M. Haydn en tant que compositeur un coffret en or émaillé de diamants et à chacun des quatre musiciens cités plus haut une tabatière en or. Bon, pour être très honnête avec vous, en fait, on ne sait pas exactement quel quatuor de Haydn a été joué en cette fin décembre 1781 à Vienne, dans les appartements de la Grande Duchesse, ni si un seul ou plusieurs ont été joués. Mais étant donné que le compositeur vient tout juste d'achever un groupe de 6 quatuors, son opus 33, on peut supposer sans trop de risque de se tromper que c'est l'un de ceux-là. J'ai choisi le troisième en Do majeur. On ne sait pas grand-chose, en dehors de quelques vagues dates, des circonstances de composition de ce groupe de quatuors opus 33, et encore moins, bien sûr, de celui en Do majeur précisément. En revanche, on connaît un peu la vie de Haydn dans les années 80, ses tâches régulières et le cadre de son emploi. Bienvenue donc à Esterháza. Lorsqu'il compose ses 6 quatuors opus 33 en 1781, voici près de 20 ans que Haydn est employé par les princes Esterházy. D'abord Paul, puis Nicolas, dont il est le Kapellmeister depuis 1766. Il vit la plus grande partie de l'année dans le château d'Esterháza, au nord de la Hongrie, et il passe 2 mois d'hiver à Vienne. À Esterháza, c'est peu de dire que Haydn est isolé. C'est seulement à Vienne qu'il peut se nourrir de musique vivante ou de spectacles vivants et avoir accès aux partitions en circulation. « Enfin, quand je dis que Haydn n'a pas accès à la musique vivante à Esterhaza, j'exagère, puisqu'en effet, il a accès à la sienne, celle qu'il compose et celle qu'il dirige. À Esterhaza, il est le maître des réjouissances musicales, le seul maître. Après le prince Nicolas, bien sûr, mais qui ne fait que décider des grandes lignes. Au fil des années, les goûts du prince ont changé, comme les goûts des amateurs, qu'on n'appelle pas encore le public, qui ne sont pas assez nombreux. Et donc, les devoirs musicaux de Haydn aussi ont changé. Depuis quelques années, la grande passion du prince, c'est l'opéra. Donc, son Kapellmeister doit composer des opéras, et comme sa production ne peut pas suffire au grand appétit de son maître, il doit aussi diriger des opéras d'autres compositeurs. Pour vous donner une idée du travail de Haydn autour de l'opéra à Esterhaza, je peux vous dire par exemple qu'entre 1780 et 90, une dizaine d'années donc, Haydn a dirigé 1026 représentations pour un total de 73 ouvrages de 25 compositeurs différents. L'année qui nous intéresse, à savoir 1781, ce sont 69 représentations de 10 ouvrages, dont 6 créations et 4 reprises. Le seul compositeur peut-être qui ait eu une aussi grosse charge d'opéra à monter est sans doute Mahler, à Vienne. Dans le cas de Haydn, on imagine le travail sur chaque partition, qu'il doit lui-même apprendre et faire travailler aux musiciens et aux chanteurs. Et en plus, lorsque l'opéra n'est pas de lui, il doit le réviser, soit pour l'adapter à ses interprètes et à leurs capacités, soit pour l'améliorer, du moins le mettre à son goût, le raccourcir souvent, ou intercaler d'autres airs au milieu, ou enfin tout ce qui peut convenir à son sens dramatique et musical. Il y a à Esterhaza un théâtre qui a brûlé, qui a été reconstruit et qui est inauguré le 25 février 1781 avec une création de Haydn en personne, la Fedelta Premiata.
Fuggi almeno, non ti puoi raggiungere.
La Fedelta Premiata est le 10e opéra que Haydn compose pour le prince Esterházy. Chacun correspond à une circonstance tout à fait exceptionnelle dans la vie de cette petite cour. Parfois le séjour d'une grande personnalité, l'impératrice Marie-Thérèse elle-même est venue en visite, parfois le mariage d'un jeune prince. Cette fois-ci donc, c'est l'inauguration du nouveau théâtre. Haydn a bien fait les choses et il écrit à l'éditeur Artaria à Vienne « Je vous assure que rien de comparable n'a encore été entendu à Paris, ni même à Vienne sans doute. Mon malheur est de vivre à la campagne. » On entend ici comme Haydn est parfaitement à l'aise dans le style de l'opéra bouffa italien, qu'il maîtrise totalement. C'est que depuis ces dernières années, il en avale et il en avale, si vous me permettez. Néanmoins, il ne compose pas seulement de la musique d'opéra, il compose aussi des symphonies. Quoique le prince lui en demande beaucoup moins et que donc son rythme est un peu diminué ces dernières années, justement en raison de son temps plein comme directeur d'opéra. C'est pourquoi d'ailleurs, il recycle, il adapte. Par exemple, le final de la symphonie 73 se trouve être aussi l'ouverture de la Fedelta Premiata. Dernièrement, nous sommes toujours à la fin de 1781, Haydn a composé quelques symphonies, mais pas beaucoup. Beaucoup moins que les premières années de son emploi chez le prince Esterházy. Et en revanche, il n'a composé aucun quatuor depuis 1772. Cette année-là, il venait d'en écrire 6, son opus 20, et les deux années précédentes, deux autres séries de 6, c'est-à-dire 18 quatuors en 3 ou 4 ans. Et puis, plus rien pendant 9 ans. Alors que se passe-t-il en cette année 1781 ? Plusieurs choses. D'abord, au mois de septembre, Nicolas Esterhazy part pour un long voyage à Paris. Exit le prince, Haydn est tranquille, pas d'opéra à composer, ni à faire répéter, ni à diriger. Il a un peu de temps devant lui. Et puis justement, il y a longtemps qu'il n'a pas fait de quatuor et le genre évolue. On en publie beaucoup à Paris et récemment, un recueil de Boccherini est paru à Vienne. Peut-être de quoi donner envie à Haydn de s'y remettre. Le deuxième mouvement du troisième quatuor de l'opus 33 de Haydn est nommé, non pas menuet, mais scherzando allegretto. On y sent bien pourtant les trois temps du menuet et le côté gracieux et aimable de la danse. Mais Haydn s'y amuse aussi, d'où le terme scherzando en plaisantant. Par exemple, il s'amuse à contredire la grâce par une certaine gravité. Il demande aux instruments de jouer sotto voce, à mi-voix et dans le registre grave. Pour contraster avec ce délicat mais grave allegretto, Haydn écrit un trio beaucoup plus aigu qui ne fait intervenir que les deux violons et qui les fait dialoguer avec des trilles qui ont fait mériter au quatuor le surnom de « l'oiseau ». Un autre événement qui a peut-être incité Haydn à composer de nouveaux quatuors, c'est l'établissement à Vienne d'une nouvelle maison d'édition, Artaria. Auparavant, dans le pays, les partitions circulaient beaucoup en manuscrits, ou sinon, elles venaient de Paris, ou de Londres, ou d'Amsterdam, toute ville où on trouvait de nombreux éditeurs. Depuis qu'Artaria, jusque-là spécialisée dans la publication de cartes géographiques, s'est tournée vers la musique, un nouveau débouché commode est apparu pour les compositeurs autrichiens. C'est d'ailleurs grâce à la correspondance de Haydn avec Artaria qu'on connaît quelques éléments de date sur ses œuvres. Alors qu'il doit lui livrer un groupe de leaders, Haydn écrit d'Esterhazy à Artaria le 18 octobre 1781 qu'il n'a pas pu s'y consacrer à cause de 6 nouveaux quatuors auxquels il travaille actuellement et qui doivent absolument être prêts dans 3 semaines. Une fois ses quatuors de l'opus 33 achevés, Haydn, qui était resté jusque-là à Esterhaza, peut venir passer quelques semaines à Vienne en l'absence de son prince. Le 3 décembre, il envoie un courrier à un certain nombre d'amateurs de musique pour leur proposer ses quatuors en souscription, en copie manuscrite, pour la somme de 6 ducats. Il promet bien sûr de les livrer avant qu'ils ne paraissent, beaucoup moins chers, en édition. Et il précise que ses œuvres sont d'un genre nouveau et tout à fait particulier, car il n'en a pas écrit depuis 10 ans. On a conservé 3 de ses lettres, toutes les 3 différentes, personnalisées, mais qui contiennent toutes les 3 cette même phrase « d'un genre nouveau et tout à fait particulier ». Phrase qui a un caractère de marketing, bien dans la manière de Haydn, mais qui montre aussi, bien sûr, que notre compositeur avait conscience de marquer là une date dans l'histoire du quatuor à cordes. Ce que tous les musicologues ont reconnu depuis, d'ailleurs. Haydn est encore à Vienne le 29 décembre 1781, lorsque Artaria annonce qu'il va publier très bientôt les nouveaux quatuors du maître d'Esterhaza. Haydn est furieux contre lui, parce qu'il n'a pas encore eu le temps de satisfaire tous ses souscripteurs, et qu'à présent, ceux-ci n'ont plus aucun intérêt à payer pour des manuscrits, alors qu'ils pourront avoir la partition publiée pour 5 fois moins cher. Artaria va accepter d'attendre quelques mois pour la publication, et le compositeur va se réconcilier avec lui. Il continuera à lui confier ses partitions pour l'édition. Avec le rondo final du quatuor opus 33 numéro 3, dont le refrain sonne particulièrement joyeux, Haydn établit une des caractéristiques du style classique viennois, ce mélange savoureux et typique de populaire et de savant, avec parfois même un petit parfum hongrois qui fleure bon la campagne autour du château du prince Esterhazy. Le final du quatuor opus 33 numéro 3 de Joseph Haydn par le quatuor Jérusalem. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Françoise Monteil pour les recherches et le site, Claire Lagarde pour la réalisation et Guillaume Leduc pour le mixage.
À réécouter sur francemusique.fr.